cadre des rencontres de l'histoire, un cycle de conférences du 19 au 21 novembre au Champ Libre à Rennes, nous accueillons Erwan Cadoret. Tu participeras à une rencontre autour des catastrophes au cinéma, une rencontre qui sera animée par le journaliste Arnaud Vasmer le samedi 20 novembre à 11h. Bonjour Erwan.
Bonjour.
Erwan Cadoret, tu es docteur en cinéma et à l'occasion des rencontres de l'histoire, tu passes en revue les différents modes de représentation de la catastrophe sur grand écran. Depuis combien de temps t'intéresses-tu à ce phénomène des catastrophes au cinéma et pourquoi ce phénomène est-il si cinématographique et passionnant à étudier ?
D'abord, je précise que je ne suis pas spécialiste au sens universitaire des catastrophes. C'est un sujet qui m'intéresse en tant que spectateur, mais je n'ai pas travaillé dessus, on va dire, dans le cadre de mes activités universitaires ou professionnelles. Alors, par contre, pour remonter, on va dire, à mon goût pour pour le cinéma de catastrophes, je dirais que ça remonte à quand j'étais petit, quand j'avais 10-12 ans, et que j'ai découvert l'aventure du Poséidon. Film catastrophe avec un bateau qui se fait renverser par un tsunami, film avec Gene Hackman, avec tout un casting de stars, il y a des scènes très impressionnantes, notamment de renversement du bateau avec un décor à l'envers et tout ça, les gens qui tombaient du plafond, il y avait une espèce de frénésie, et puis ensuite après une histoire de survivants, c'était un petit peu cette forme là qui m'intéressait. C'est plutôt ce qu'on appelle le film catastrophe, même si le film catastrophe ne résume pas, on va dire, à lui seul toute la présence de la catastrophe au cinéma. Et puis pour te répondre sinon sur la présence de ces choses de la catastrophe au cinéma, en fait c'est assez logique dans la mesure où toutes les cultures qui ont développé des industries cinématographiques sont des cultures qui possèdent toutes un fond eschatologique, c'est-à-dire que dans les mythologies, dans la littérature, dans la peinture aussi ou dans d'autres formes d'art, il y avait déjà une grande tradition de la catastrophe, de la représentation de la catastrophe ou de l'évocation de la catastrophe. Donc ça semblait assez logique que le cinéma s'empare de ça, et ça a correspondu en plus notamment à partir des années 90, ça a correspondu avec ce truc qu'on retrouve un peu à tous les siècles, c'est-à-dire la peur millénariste de la fin du monde, hein. Donc on a eu le droit au bug de l'an 2000, en 1999, puis après on a eu le droit les Mayas et 2012 et la fin du monde, je pense qu'on devrait avoir d'autres phénomènes comme ça de paranoïa, en tout cas d'angoisse autour de la notion de fin du monde. Bon, la dernière en date, c'est le Covid, hein, de toute façon, et la manière dont les gens ont réagi, par exemple, au Covid, en vidant les supermarchés, ou en ayant peur du contact humain, ça a aussi à voir avec cette espèce de peur un peu millénariste de la disparition de l'espèce humaine, qui est à la fois quelque chose dont on sait que ça va finir par arriver un jour, et en même temps, on n'arrive pas à s'y faire, à cette idée-là. Et le cinéma, je pense, mais comme d'autres formes d'art, le récit eschatologique est là, justement, pour nous aider à exorciser, en fait, cette peur un peu irrationnelle de la disparition individuelle et collectif de l'espèce humaine.
Et quand on parle des catastrophes au cinéma, on pense facilement aux films de guerre, aux catastrophes naturelles ou encore aux films post-apocalyptiques, mais la définition est-elle plus large que ça ?
La définition, elle est un peu double, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce qu'on appelle les catastrophes naturelles, hein, donc en anglais, on appelle les acts of God, hein, les actes divins. Hein, donc, dans la réalité, aux États-Unis, quand on fait un procès comme ça, qu'il y a une catastrophe naturelle qui est envisagée, on peut éviter de payer des dommages et intérêts en invoquant justement l'act of God, hein, c'est-à-dire le fait que la nature se déchaîne contre nous de manière totalement irraisonnée, et on a tout ce qui relève des catastrophes naturelles, donc maladies, incendies, inondations, tremblements de terre, tsunamis, je vous laisse imaginer ça, jusqu'à la destruction finale de la Terre. Alors souvent c'est avec un astéroïde qui vient s'écraser ou avec quelque chose, notre planète qui rentre en contact ou qui se rapproche trop du soleil, ça a toujours à voir avec un phénomène naturel. Et puis il y a les autres catastrophes qui sont les catastrophes humaines, qui sont les catastrophes d'origine humaine, et donc là c'est plutôt ce qui va concerner les catastrophes écologiques, donc la pollution, etc., mais également tout ce qui concerne le terrorisme. Voilà, et donc les actions humaines qui provoquent finalement des catastrophes, sachant que dans le cas des catastrophes naturelles, il y a toujours un petit peu ce discours, enfin en tout cas qui était très présent notamment dans les films catastrophes des années 70, c'est-à-dire l'idée que la nature vient se rappeler à nous pour nous rendre modestes en fait. Et donc souvent dans les années 70, l'aventure du Poséidon, la tour infernale, tremblement de terre, c'est souvent c'est des choses qui se déroulent dans des pays, aux États-Unis. Une espèce de soif de croissance, de building, de croissance, de consommation, et la nature vient finalement nous rappeler que notre petitesse en fait et notre modestie face à la toute-puissance de la nature. Mais les films sur les virus traitent aussi de ça quelque part aussi, hein, même si c'est sous une forme moins visible, plus diffuse, mais ça nous rappelle ça aussi, la possibilité que notre monde tel qu'il est construit aujourd'hui est en fait un monde de papier qui peut disparaître au moindre coup de vent, quoi.
Et quand on évoque les films catastrophes, on peut facilement penser à un film marquant du siècle dernier, c'est bien évidemment Titanic, sorti en 1998. Mais est-ce que tu peux nous dire un peu plus précisément à quand remontent les premiers films catastrophes ?
Les premiers films catastrophes en fait sont assez anciens, puisqu'en fait les premiers films catastrophes c'est dans les péplums qu'on trouve ça, dans les péplums muets notamment. Et donc je pense que le premier film, peut-être pas catastrophe, mais où il y a une catastrophe, c'est Cabiria, de Giovanni Pastrone en 1914. Donc avec une scène d'éruption et de destruction de la ville. Et ça, c'est un grand classique, hein, qu'on va retrouver jusque dans les années 50-60, hein, dans les péplums. C'est-à-dire, voilà, là aussi, quelque part, la divinité qui vient punir le monde païen, en fait. Hein, qui vient punir le monde païen. Il y a souvent un message biblique derrière tout ça. Donc, finalement, c'est assez ancien. Alors, c'est aussi assez ancien parce que, quelque part, le cinéma, dès qu'il a commencé à comprendre que, en fait, l'un de ses buts, c'était aussi de créer du spectaculaire, la catastrophe, c'est toujours spectaculaire. Donc, voilà, donc ça, c'est à la fois tragique, mais c'est aussi spectaculaire. Donc, ça fonctionne toujours très bien en termes d'un point de vue cinématographique. C'est pour ça qu'on retrouve ça dès le milieu des années 10, dès le moment où le cinéma commençait à avoir des moyens, on va dire, et des techniques suffisantes pour représenter justement à l'écran ces catastrophes. Alors au départ sous forme de maquettes, puis maintenant plutôt avec des effets spéciaux numériques.
Et j'ai lu que 1970 pouvait être considéré comme l'âge d'or du cinéma catastrophe, avec la sortie du film Airport, nommé aux Oscars en 1971. Ensuite, un renouveau est notamment évoqué dans les années 90, principalement lié au développement des effets spéciaux. De ton côté, est-ce que tu classes également le cinéma catastrophe en différentes périodes ?
Effectivement, il y a différentes périodes qui sont souvent liées en fait à des questions de rapport justement au spectaculaire, hein. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il y a une première période de films catastrophes, ce sont les péplums muets, les péplums, il y a déjà des films catastrophes un petit peu comme ceux qu'on va trouver dans les années 70, il y en a déjà quelques-uns dans les années 30, mais c'est vraiment la notion de catastrophe en fait. Alors après ça dépend des cinématographies, mais dans le cinéma américain, la notion de catastrophe, elle apparaît vraiment après la Seconde Guerre mondiale. Et il y a plusieurs types de cas. En fait, c'est des successions en fait de motifs de catastrophe en fait qui vont se succéder. C'est-à-dire qu'on va avoir la peur du danger nucléaire dans un premier temps. Donc ça se trouve dans le cinéma américain, ça se trouve aussi dans le cinéma japonais par exemple avec Godzilla, avec la figure de Godzilla. On va avoir donc le péril atomique. Et puis ensuite, on va avoir le retour en force de la nature dans les années 70. Et puis la possibilité de la fin du monde qui va avec l'an 2000. Et qui ensuite va se répéter en 2010 avec donc notamment 2012 de Roland Emmerich, là où aussi il y a tout un tas de films catastrophes. Mais alors dans les années 90-2000, les choses se mélangent un peu parce qu'en fait les films catastrophes, il y a des films qui sont entre guillemets réalistes, hein, c'est-à-dire que les causes sont des causes qui sont possibles, et puis il y a des films catastrophes où la catastrophe est due à un événement surnaturel. Godzilla c'est ça par exemple, et les récents Godzilla d'ailleurs jouent à fond cette carte-là en mélangeant justement une imagerie qui est une imagerie qu'on a pu voir à la télévision dans des faits divers ou dans des événements tragiques, avec des créatures surnaturelles. Alors le grand truc, c'est les extraterrestres, hein. Donc généralement les extraterrestres, quand ils arrivent, ils détruisent tout sur leur passage pour montrer qu'ils sont les plus forts. Donc ça c'est quelque chose, mais encore une fois c'est très spécifique au cinéma américain. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup moins dans les autres pays, qu'on retrouve beaucoup moins dans les pays européens et qu'on retrouve encore moins dans les pays extra-européens, même s'il peut y avoir du film catastrophe, notamment la question du danger nucléaire est une question qui ressurgit quand même assez régulièrement au cinéma aujourd'hui. Je pense par exemple au Transperce-Neige de Bong Joon-ho, voilà, donc en Corée du Sud, il y a, je ne sais plus quand il date, de 2013-2014, quelque chose comme ça. Voilà, donc il y a jamais eu vraiment de période sans film catastrophe. Il y a juste des périodes où les films catastrophes sont plus nombreux que d'autres. Donc il y a essentiellement les années 70 et les années 90, effectivement, qui sont marquantes. Mais on pourrait dire que les années 50, le cinéma d'invasion extraterrestre dans les années 50, ou d'animaux géants, a à voir aussi avec le film catastrophe.
Et donc, depuis les tout débuts du cinéma catastrophe, les possibilités techniques et financières sont bien plus grandes et les effets spéciaux plus impressionnants. Mais existe-t-il tout de même un schéma similaire dans le déroulé des films d'aujourd'hui et d'autrefois ?
Alors, y a plusieurs schémas, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le film où les personnages sont pris dans la catastrophe. Donc là, c'est plutôt du film de survivants, c'est-à-dire que généralement, c'est un groupe de personnages qui ne se connaissent pas au départ, qui vont se retrouver ensemble et qui vont essayer de travailler collectivement à leur propre survie. Voilà, donc ça, c'est un peu le schéma de base, on va dire, du film catastrophe un peu typique, qu'on trouve dans les années 70, mais qu'on retrouve aussi plus tard. Hein. Après, il y a aussi d'autres manières de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a les films, d'après la catastrophe, donc là, c'est ce qu'on appelle le post-apo, le film post-apocalyptique, hein. Donc là, c'est généralement après une catastrophe nucléaire ou après une catastrophe écologique, et là, on a, qu'est-ce qui se passe après ? Comment est-ce que les gens vivent ? Comment les humains vivent ou, justement, ne vivent pas dans ce monde-là ? Alors, plus rare, on a aussi certaines fictions, mais elles sont quand même plus rares, qui parlent de ce qui se passe avant. Donc là, c'est ce qu'on pourrait appeler des films pré-apocalyptiques. Et donc, avec des films qui montrent justement comment les personnages vont régler leurs problèmes, ou vont essayer de régler leurs problèmes avant que l'inévitable arrive. Donc là, je ne sais plus le titre en français, mais je crois que c'est 24 heures avant la fin du monde de Abel Ferrara, qui est une espèce de huis clos à deux, comme ça, avec un couple qui se déchire alors que le monde est en train de s'effondrer. Alors il y a aussi une série aussi qui est assez intéressante d'ailleurs, même si ça prend un parti pris assez différent, qui s'appelle The Looming Tower, qui est une série avec Tahar Rahim, en fait, sur le 11 septembre, en fait, plutôt plus précisément sur des personnages qui, en fait, essayent de prévenir les autorités américaines de l'imminence du 11 septembre, et en fait, on les croit pas. Donc là, c'est plutôt des films qui ont à voir avec le complexe de Cassandre, qui est aussi une figure qu'on retrouve beaucoup dans le film catastrophe, c'est-à-dire le scientifique ou le militaire qui sait des choses, qui essaye de partager ces choses-là, et puis on lui dit non, c'est pas le moment, c'est pas la peine, et donc du coup la catastrophe finit à arriver, mais plus par incompétence en fait de la société humaine que par l'action unique de la catastrophe en fait. Donc il y a aussi là aussi des commentaires sur l'administration, sur l'incompétence du monde politique ou du monde médiatique, sur ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment les trois schémas qu'on peut trouver, c'est-à-dire la catastrophe, avant la catastrophe ou après la catastrophe.
J'ai donc parlé de la place importante des effets spéciaux et du budget conséquent, mais je me demandais s'il était encore possible aujourd'hui de voir des films catastrophes à petit budget avec des effets spéciaux simplistes.
Oui, alors il est d'autant plus possible que vous pouvez très bien traiter la catastrophe par le hors-champ. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas les moyens mais que vous voulez faire un film avec une catastrophe, il va falloir ne pas la montrer. En ne la montrant pas, en fait, ou en montrant, on va dire, des choses annexes par rapport à la catastrophe, mais pas la catastrophe en elle-même, vous allez vous épargner justement des problèmes de budget, des problèmes d'effets spéciaux. Donc c'est vrai qu'il y a deux voies, en fait. On pourrait dire qu'il y a une voie maximaliste qui est la voie des effets spéciaux à partout, des grandes scènes de destruction, etc., etc. Et puis il y a une voie minimaliste qui est une voie où on s'intéresse plus aux personnages qu'aux événements. Ce qui est un peu l'inverse souvent dans la version maximaliste, on s'intéresse plus aux événements et les personnages sont un peu génériques, c'est un peu des personnages parfois même un peu clichés. Dans le cas de 2012 par exemple de Roland Emmerich, c'est totalement le cas. Donc après, ça dépend un peu de ce qu'on cherche aussi, quoi. Si on cherche du spectaculaire, effectivement, la majorité des films vont nous donner ce spectaculaire. Mais il y a toute une voie, notamment dans le cinéma indépendant, de films qui sont des films où la catastrophe est quelque chose qui est au loin, qui apparaît à travers des écrans de télé ou qui est complètement rejeté dans le hors-champ. Et là, on peut tout à fait faire un film à très petit budget avec des effets spéciaux extrêmement réduits, voire pas d'effets spéciaux du tout.
Et enfin, il serait également intéressant d'évoquer les films catastrophes qui ne sont pas américains. il y a une hégémonie du cinéma américain dans le monde, mais peux-tu nous donner envie de voir des productions européennes ou encore asiatiques, africaines ?
Alors, bah, c'est vrai qu'il y en a beaucoup moins, hein, quand même. Il y en a beaucoup moins, mais il y a pas mal de choses. Je pense notamment, alors en France, le film catastrophe est très très peu répandu, hein, dans le cinéma français, parce que c'est pas le, voilà, c'est le rapport au spectaculaire dans le cinéma français est très différent du cinéma anglo-saxon. Mais il y a quand même un film qui est un film post-apocalyptique qui est assez étrange, qui s'appelle Malléville, qui est un film des années 70, alors je sais plus trop l'année, 74, 75, quelque chose comme ça, avec l'histoire d'un groupe de personnages qui est en train de déguster du vin dans une cave, et puis pouf pouf, il y a l'apocalypse nucléaire, et en fait, bah, quand ils ressortent, il n'y a plus rien. Et donc ils doivent essayer de trouver des survivants pour essayer de voir s'ils peuvent reconstituer une société, quoi. Et c'est un film assez étrange parce que c'est un film avec un gros casting. Il y a Jacques Dutronc, il y a Jacques Villeray, je crois, il y a Jean-Louis Trintignant, enfin il y a pas mal de monde, enfin c'est vraiment un casting de grosses stars, mais avec un film justement qui est plutôt minimaliste, dans la mesure où la fameuse catastrophe, elle n'est jamais visible à l'écran. Du côté des pays d'Asie, moi je renverrais à tous les Godzilla, qui sont certes aujourd'hui considérés plutôt comme des films pour enfants, hein, mais qui le premier Godzilla notamment en 56 est un vrai film catastrophe avec destruction de maquettes par un homme dans un costume de dinosaure géant, ce qui aujourd'hui fait beaucoup rire, hein, mais qui est en fait un film tout à fait sérieux et qui est une métaphore, hein, du danger nucléaire et puis des bombardements en fait qu'ont connu le Japon, notamment des deux bombardements sur Hiroshima et Nagasaki. Donc il y a ça. Du côté des Coréens, j'ai parlé du Transpersonnage déjà, qui est un film post-apo. On en trouverait sûrement d'autres, des choses qui sont inspirées de la BD, puisque la question de la catastrophe, c'est quelque chose qui se retrouve beaucoup aussi dans le manga japonais, par exemple. Et je pense par exemple à Akira, par exemple, en animé, quoi, en fait, qui est un film post-apocalyptique, mais qui est un film qui se termine aussi par une catastrophe, même si c'est une catastrophe là aussi qui est à la fois humaine et surnaturelle, où c'est un peu la conjonction des deux. Après, il y a des choses qui se rapprochent du film catastrophe. Je pense à Blindness, par exemple, de Fernando Meirelles, qui est un réalisateur brésilien, qui est un film qu'il a tourné aux États-Unis, mais qui raconte, qui part du principe que l'humanité devient aveugle. Et donc on va suivre justement un groupe d'êtres humains qui tentent de survivre dans un monde où tout le monde est devenu aveugle et donc où on n'a plus aucun repère. C'est un petit peu les choses, mais c'est vrai qu'on n'a pas une autre industrie en fait qui a autant autant travailler le genre de la catastrophe, ou en tout cas le motif de la catastrophe, que les États-Unis. Au Royaume-Uni, par exemple, je pense, alors pareil, au Royaume-Uni, ça va se faire de manière un petit peu par la bande. Je pense notamment à la série Years and Years, qui est passée il y a un an et demi, qui raconte, qui essaye d'imaginer le pire futur possible à partir du présent dans lequel on est, hein, donc un futur où l'extrême droite règne sur toute l'Europe, où il y a des réfugiés qui meurent par milliers, etc., etc. Et là où finalement la catastrophe, on est plus dans l'anticipation finalement que dans le film catastrophe spectaculaire. Donc là c'est une autre manière aussi de procéder par l'anticipation, ça peut aussi passer par là. Mais c'est vrai que les Américains ont un rapport à la catastrophe qui est très très fort, parce que les Américains vivent dans la terreur de leur propre disparition. Et ça c'est quelque chose qui est très 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 fortement ancré chez eux. Il ne faut pas oublier que c'est un pays qui est jeune, c'est une démocratie qui est jeune aussi. Et donc il y a des angoisses en fait de civilisation, il y a des angoisses culturelles en fait fondamentales, et notamment l'angoisse de leur propre disparition, l'idée qu'un jour Dieu va revenir pour se venger, pour faire payer ses péchés à l'Amérique. Et l'Amérique vit beaucoup dans ce fantasme. Justement, il faut bien voir qu'il y a aussi toute une dimension religieuse, hein, notamment dans le cinéma américain. Le cinéma américain vit énormément dans ce fantasme de sa propre disparition. En fait, il joue beaucoup à se faire peur. Le cinéma américain joue beaucoup à faire peur aux spectateurs américains.
Merci Erwan pour toutes ces recommandations et ces explications. Et puis si cela vous a tapé dans l'œil, sachez que la conférence se déroulera le samedi 20 novembre à 11h à l'auditorium au Champ Libre.
Merci Marion et merci Erwan pour ces propos passionnants.
Merci d'avoir été ici.